I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver ce soir. Alors, c'est le 1er mai. On vous a fait un petit plateau merveilleux aux petits oignons. Simon Guilin, il est enfin... Alors, il y a Jean-Sébastien Ferzo. venez. Il a vu de la lumière, il est rentré.
Non, il est au parfum.
Il est au parfum. Alors, je vous dis, hein, ça sent très, très bon sur le plateau parce que, voilà, vous recevez peut-être du muguet par SMS, etc. Nous, on l'a en direct et ça parfume le plateau. Ça va, Jean-Sébastien ?
Ça va, Christine.
Ravi de vous accueillir ce soir.
Joyeux 1er mai.
Merci. Bon 1er mai à toute la France. Simon Guilin est en forme, c'est parti pour les infos du jour.
J'ai juste un tout petit cadeau pour vous, juste avant de commencer l'émission.
Ah bon ? Non, mais...
C'est la soirée des happenings.
Pardon. Oh, non, c'est sérieux ? Oh, c'est trop mignon, ça.
Oh là là. Oh, joyeux 1er mai, Christine.
Oh, merci. Je vous aime. Allez faire l'info quand même.
C'est bon, boulot, j'y vais.
Il est fort.
Merci.
Passons maintenant aux choses qui pleurent.
Merci, allez, l'info du soir.
Allez, on y va. Bonsoir à tous, chers téléspectateurs. 121 000 personnes ont défilé aujourd'hui en France à l'occasion de la fête du travail, dont 18 000 dans les rues de la capitale, des chiffres communiqués ce soir par le ministère de l'Intérieur. À 18h15, 45 personnes avaient été interpellées par les forces de l'ordre. Jordan Bardella et Marine Le Pen en meeting à Perpignan aujourd'hui, tête de liste RN pour les élections européennes. Jordan Bardella a donc choisi le 1er mai pour lancer le compte à rebours. Le Rassemblement national est largement en tête dans les derniers sondages à un petit peu plus d'un mois maintenant du scrutin. Et puis c'est une première, une porte-parole générée par l'intelligence artificielle. C'est ce qu'a annoncé le ministère des Affaires étrangères ukrainien ce matin sur X. Elle sera notamment en charge de commenter les affaires consulaires du pays, cher Christian.
Merci beaucoup. C'est intéressant parce que la porte-parole de la Maison-Blanche, une d'entre elles, elle est martiniquaise. Eh oui, merci beaucoup, mon cher Simon Guilin. Au sommaire ce soir, de moins en moins de manifestants défilent le 1er mai et les raisons initiales du défilé s'effacent progressivement à l'image de la gauche elle-même. Pourquoi n'y a-t-il plus un million de personnes dans la rue alors que la question sociale est aussi forte aujourd'hui ? Plus la question sociale devient forte et plus la gauche tourne le dos à ses fondamentaux pour se tourner vers le triptyque. Islamisme, écologie, wokisme. Pourquoi la gauche a-t-elle perdu la main ? Pourquoi se divise-t-elle ? À l'image de Raphaël Glucksmann, empêché par l'extrême gauche de rejoindre un cortège à Saint-Étienne aujourd'hui, l'édito de Guillaume Bigot. Alors qu'on a vu des drapeaux palestiniens dans les défilés aujourd'hui, l'ayatollah Khamenei, guide de la révolution islamique iranienne, a publié aujourd'hui un deuxième tweet de soutien aux étudiants américains et occidentaux occupant des universités. Qui tire vraiment les ficelles dans cette cause palestinienne ? Qui veut la déstabilisation des démocraties occidentales ? Qui sont les relais de cette stratégie en France ? Comment expliquer que le régime iranien trouve des alliés ou des interlocuteurs ici chez nous ? L'analyse de Jean-Sébastien Ferjou. Le 1er mai, c'est la Saint-Joseph, patron des travailleurs. Mais qu'en est-il des travailleurs aujourd'hui ? Il n'y a jamais eu autant de Français payés au SMIC depuis plusieurs décennies. Près d'un Français sur cinq. D'un côté, il y a les assistés. De l'autre, il y a cette catégorie de travailleurs qui se lèvent le matin sans pouvoir vivre de son travail, avec un salaire qui ne couvre en rien leurs besoins. Est-ce là l'encouragement au travail aujourd'hui ? Le regard de Marc Menon. Le père de Matisse a ému la France entière aujourd'hui. Il a publié sa lettre d'adieu à son fils de 15 ans sur les réseaux sociaux. « Tu ne méritais pas ça. Tu étais un vrai gentil, un trop gentil même, qui n'avait pas les armes pour ces fréquentations qui t'attiraient depuis quelques semaines. » On essaie d'ailleurs un peu plus sur la dangerosité repérée avant le meurtre de Matisse, du jeune Afghan et de sa famille. Malgré cette dangerosité, le meurtrier présumé de Matisse ne pouvait être expulsé. Comment se fait-il qu'on garde des réfugiés dangereux ? Pourquoi est-il impossible de les expulser ? Le décryptage de Gabriel Cluzet. Et puis l'Occident blanc pourra-t-il se racheter de sa culpabilité liée à l'esclavage ? Il y a quelques jours, le président portugais a annoncé vouloir payer la dette de son pays vis-à-vis de son passé colonial. Il faut dire qu'un juge de l'ONU a exhorté plusieurs pays à payer plus de 100 000 milliards de dollars au titre du plus grand crime de l'humanité, le coup de poing final de Guillaume Bigot. Une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires, 100 000 milliards de dollars pour les victimes de l'esclavage. Je pense que je vais envoyer un petit courrier. Avoir un peu d'argent dans ma vie. Allez, c'est parti. Tout de suite, Marc Menon est jaloux. Il dit que ses ancêtres ont été esclaves aussi. Oui, mais attends, on parle d'esclaves noirs, là, non?
Ah oui, donc nous...
Ah,
nous,
ouais. ça va être toute la discussion de Guillaume Bigot dans un instant.
Le coup de poing final.
Oui, il ne faut pas dévoiler le coup de poing final. De... Marc Menon, comment allez-vous?
Bah, très bien.
Qu'est-ce que ça vous évoque? Ça sent bon, hein, ce soir. Oh. On est content de vous revoir, Jean-Sébastien.
Vous avez anticipé si certains ont des allergies?
Ah non, pas du tout.
Je vous préviens.
On n'a pas d'allergie.
Fortement.
On n'a pas d'allergie au bonheur dans cette émission. Marc Menon, le 1er mai, ça vous évoque quoi?
Ah, le 1er, vous voulez vraiment que je vous raconte
non,
toute
non,
l'histoire?
Non, 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 en fait.
Le petit bonhomme.
Mais non, mais puisqu'on parlait de l'esclavage, c'est quand même les conditions de l'ouvrier durant tout le 19e siècle, la naissance du capitalisme, des horaires épouvantable, 15-16 heures par jour, le travail dès l'âge de 5 ans, et ça mobilise les uns et les autres. Il y aura une première manifestation aux États-Unis en 1886 à Chicago, ça tourne mal, et de là, eh bien, en 1890, la deuxième internationale socialiste décrète le 1er mai.
En fait, j'ai déjà compris que si je ne suis pas là, il n'y a pas de problème. Hein. Vous prenez les rênes, il y va, notre main. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, nous travaillons, mais avec bonheur. Moi, je vous offre vraiment à tous ce beau petit muguet, plein de bonheur à vous. Et surtout, plein de bonheur à la France. Vraiment, je l'ai tweeté aujourd'hui, plein de bonheur à la France, je pense qu'elle en a besoin. Guillaume Bigot, on va commencer avec vous. Nous sommes le 1er mai, donc la fête des travailleurs, je disais tout à l'heure, aussi des syndicats, des partis de gauche qui devraient célébrer leur unité, en théorie. Or, comme on le voit, ce 1er mai, la gauche apparaît, encore une fois, divisée. On l'a vu avec Raphaël Glucksmann ce matin et LFI, l'extrême gauche, qui l'a empêché de rejoindre le cortège à Saint-Étienne.
Oui, on peut commencer par un double constat, c'est-à-dire que la gauche, elle est divisée et elle est faible. Et peut-être qu'il y a un lien entre le fait qu'elle soit divisée et le fait qu'elle soit faible. Je pense qu'il y a des liens dans les deux directions, mais ces divisions, on les a vues ce matin avec l'expulsion un peu manu militari de Raphaël Glucksmann. Partons du premier constat, la gauche, elle est faible. Alors, elle est faible d'abord dans les urnes. On est maintenant loin du temps de gloire de la NUPES, de l'arrogance de la NUPES et de la domination d'ailleurs de LFI sur les autres partis de gauche à travers la NUPES. Ça a l'air d'être un lointain souvenir, et peut-être ceci expliquant cela, parce que Place Publique et Raphaël Glucksmann sont en train de doubler LFI, ils ont déjà été beaucoup plus haut qu'LFI, donc ça pourrait expliquer l'agressivité de LFI. Mais on se dit, somme toute, pourquoi Jean-Luc Mélenchon a-t-il bordélisé sa propre NUPES et l'a fait voler en éclats? Parce que si la gauche est maintenant faible, alors on se dit, mais les petits partis, qui ne sont même pas certains d'ailleurs, c'était pas le cas du Parti communiste la dernière fois, ou dernières européennes, d'atteindre la barre des 5%, d'être représentés au Parlement européen. C'est vrai du Parti communiste, c'est vrai aussi de Europe Écologie Les Verts, qui normalement est assez fort au moment des européennes, et normalement, ils portent même le nom Europe dans leur propre sigle. Donc tous ces gens-là, parce qu'ils sont faibles, un peu comme des petits poussins, ils devraient se mettre ensemble sous l'égide de LFI. Mais pas du tout, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, en général, quand on n'a plus que des miettes, on est extrêmement tendu, voilà. Quand on joue sa survie, on est dans le chacun pour soi. Donc la gauche, elle est faible parce qu'elle est divisée. C'est vrai aussi dans les entreprises, finalement. Les syndicats font plus recette. Les syndicats, la dernière fois, ont pas pu s'opposer ou bloquer la réforme des retraites. Et donc, il y a un affaiblissement général de la gauche. Et je pense qu'ensuite, la gauche, elle est évidemment divisée. La faiblesse divise, mais aussi, il faut dire, la division fait la faiblesse. La division fait la faiblesse, c'est ce qu'on voit au plan syndical. La CGT avait une obsession, c'était l'unité. C'était le parti qui était sorti du sein du Parti communiste avec ce culte du centralisme démocratique, l'unité, l'unité, l'unité. Regardez la CGT, même la CGT, elle est éclatée façon puzzle. La CGT, chacun sa petite entreprise, comme dirait la chanson. La CGT RATP, par exemple, est cramponnée sur les intérêts corporatistes de la RATP. À l'intérieur de la CGT RATP, vous avez même maintenant des récriminations, des demandes islamiques. Donc vous voyez que même à l'intérieur d'une toute petite cellule syndicale, il y a la division. Peut-être que si le syndicalisme était plus puissant en France, s'il y avait un ou deux grands syndicats, peut-être que les salariés seraient davantage syndicalisés. Et on peut faire le même constat sur le plan électoral. La division fait aussi la faiblesse sur le plan électoral. Si la gauche était puissante, peut-être que les électeurs se tourneraient vers la gauche dans une sorte de réflexe de vote utile, parce que la gauche pourrait incarner une sorte d'alternance. Et en fait, la gauche ne peut plus incarner une alternance au macronisme. Et ce qui est assez fascinant, j'ai entendu ça, c'est resté dans mon oreille, c'est Jordan Bardella qui disait « Nous sommes la seule, nous parlons du Rassemblement National, nous sommes la seule véritable alternance en France depuis 1981 ». Et la date, évidemment, n'est pas choisie au hasard, parce que 81, c'est le moment où il y a eu une alternance quand la gauche est arrivée au pouvoir. Donc vous voyez, l'espoir de changement radical, s'il n'y a pas d'espoir de changement, la gauche, par construction, qui incarne le progrès et le changement, elle est morte.
Mais n'y a-t-il pas un formidable paradoxe, Guillaume Bigot, dans le fait que jamais les inégalités en France ont été aussi fortes, et peut-être même d'ailleurs dans le monde, alors que jamais la gauche n'a paru, comme vous le disiez, aussi faible et aussi divisé.
Si, si, il y a assurément un paradoxe. Il y a assurément un paradoxe. En théorie, si quelqu'un, un martien arriverait, il regarderait la situation économique, sociologique, sociale, il dirait mais il y a un boulevard pour la gauche aujourd'hui en France et dans beaucoup de pays occidentaux, avec le creusement des inégalités. Et pourtant, la gauche, elle est dispersée, éclatée façon puzzle, elle est à terre. Moi, je pense que pour comprendre ce paradoxe, il faut retourner aux origines de la gauche, à ce que j'appellerais la gauche d'origine contrôlée, une époque où l'identité fait recette. Allons-y. Et bien justement, on découvre quoi? Mais que la France, alors je pars refaire le topo sur le 1er mai, Marc nous a expliqué pourquoi. Il y a, dans tous les pays du monde, on célèbre le 1er mai, sauf aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on tirait déjà sur les travailleurs. Mais enfin, la France, en fait, c'est le berceau originel de la gauche. On va dire la vraie gauche, la seule gauche, c'est-à-dire, à mon avis, c'est très simple, c'est l'union du progrès, l'union de la raison et l'union de la question sociale, les petits, les sans grade, les injustices. C'est ça, finalement, la gauche originelle. Et c'est en France qu'elle naît. Avec la Révolution française, bien sûr. Souvenez-vous que toutes les révolutions du monde ont imité la Révolution, c'est-à-dire la nôtre. L'international, c'est un champ inventé par la France. Le drapeau rouge, il a été sur les barricades de la Commune de Paris. Donc, pour expliquer votre paradoxe, il faut comprendre ce qui s'est passé entre le 19e et le 20e siècle. Au moment où apparaît la gauche avec 1789, il va y avoir une dynamique qui va continuer jusqu'à la chute du mur de Berlin. Cette dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est l'apparition, le surgissement de forces politiques, justement de gauche, question sociale, raison, progrès. Avec 1789, c'est la République. Et puis ensuite, vous avez plein de mouvements qui vont apparaître et qui vont décaler, par exemple, l'idée de République, les Républicains, qui vont les décaler vers la droite. Prenons l'exemple des radicaux. Le mot radical, la radicalité veut bien dire ce qu'elle veut dire. Donc les radicaux, c'est une demande de gauche, sociale, de raison, qui va décaler la République vers la droite. Et puis vous allez avoir le socialisme, il va faire la même chose. Il va décaler le radicalisme vers la droite. Et puis vous allez avoir le communisme va décaler le socialisme vers la droite. Jusqu'en 1968, où vous avez tous ces mouvements, ces groupuscules gauchistes, trotskistes, maoïstes, qui vont faire quasiment passer le Parti communiste qui veut arrêter la grève comme une force quasiment bourgeoise.
Le PAC est à droite ce soir.
Alors, pas du tout. Et en réalité, on va revenir sur l'actualité. On voit bien qu'à partir du moment où le mur de Berlin s'écroule, ce mythe du grand soir, ce mythe de la révolution, la possibilité pour les pauvres d'imposer la justice et par la force, et en même temps en faisant triompher la raison, ça s'écroule en même temps que le mur de Berlin. Qu'est-ce qui arrive depuis, au XXe siècle? Et on va arriver à la situation d'aujourd'hui. Eh bien, ce sont des forces politiques nouvelles qui émergent, des causes politiques nouvelles qui émergent, mais qui sont indifférentes à la question sociale. Et probablement d'ailleurs indifférentes à la question du progrès par la raison et par la science. L'immigration, c'est une cause qui attache beaucoup la gauche. Mais l'immigration, on oublie, on le sait, Georges Marchais tempêtait contre l'immigration. Jaurès aurait tempêté contre l'immigration. Pourquoi faire concurrence aux travailleurs et faire baisser les salaires? Ensuite, l'islamisme. L'islamisme du Hamas qui voile les femmes, l'islamisme des frères musulmans qui veut embourgeoiser ses enfants pour prendre le contrôle, l'islamisme du Qatar, des milliardaires du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Quel est le rapport avec la gauche? Aucun rapport. Quel est le rapport entre l'écologie et la gauche? Qu'est-ce que c'est l'écologie en réalité? Ce sont des cadres sup, plutôt à l'aise, dans des centres-villes, qui veulent des pistes cyclables et qui veulent végétaliser c'est-à-dire leur environnement urbain.
C'était à droite.
Bien sûr, ils veulent moins de production agricole, ils l'ont montré, et ils veulent en fait fermer les usines. En quoi c'est à gauche? En quoi ils s'intéressent à la question sociale? Le sociétal maintenant, qui vient des États-Unis d'Amérique, hein, qu'adorent les multinationales avec l'inclusif, etc. Le sociétal, qu'est-ce qu'il veut? La GPA par exemple, c'est-à-dire la marchandisation de l'utérus des femmes. En quoi le sort des plus pauvres, ça intéresse les questions sociétales? Absolument pas. Donc en fait, on va reprendre et on va comprendre votre paradoxe. Le paradoxe, c'est que pourquoi la gauche, elle est faible? Alors même que les questions sociales sont de plus en plus importantes, tout simplement parce que la gauche n'est plus à gauche. C'est aussi simple que ça. Rome n'est plus à Rome.
Mais justement, le succès de Raphaël Glucksmann, succès entre guillemets, hein, oui, et de sa liste Place République, est-ce qu'il ne montre pas que cette vieille gauche laïque résiste encore aujourd'hui? Est-ce que cette candidature n'est pas peut-être un espoir pour cette vraie gauche?
Bah, c'est quoi, qu'est-ce que c'est que cette gauche, en fait? C'est une gauche social-démocrate, c'est une gauche rocardienne, on va dire raisonnable, dite de gouvernement. Moi, je pense que c'est quand même un peu le lobby, si on regarde ceux qui incarnent cette gauche, hein, le ministre Cazeneuve de l'Intérieur, si on regarde, par exemple...
Manuel Valls.
Ce sont un peu des gens qui n'ont pas réussi à se recaser chez Macron, qui n'ont pas eu un poste chez Macron, en fait. C'est ça la vérité. Alors, je vais dire que je suis peut-être trop dur avec cette gauche.
Oui.
Bon, Glucksmann a du talent, c'est indiscutable, mais ce qu'il incarne, c'est... Et pourquoi ça fonctionne? Pourquoi il monte? Parce qu'en fait, Mélenchon baisse. Et pourquoi Mélenchon baisse? Parce que Mélenchon fait peur. Il fait peur, bien sûr, depuis les émeutes, il fait peur encore davantage depuis le 7 octobre, parce que les Français ont compris que son troisième tour social, sa bordélisation dans la rue, pourrait prendre un tour qui n'a aucun rapport avec, vous savez, l'élévation des salaires après 1936, après les grèves de 1936, ou l'élévation des salaires après mai 68.
Je fais une parenthèse, si vous permettez, Jean-Luc Mélenchon, qui a condamné ce qui s'est passé ce matin, hein, avec Raphaël Glucksmann.
Il a tout à fait condamné ce qui s'est passé, mais il n'en reste pas moins qu'il a un appel ambigu, certes, mais tout de même un appel à la violence, et un appel au soulèvement des banlieues, qui à mon avis se contrefichent de ces appels ou soulèvements. Mais parce que dans les banlieues, on a des ultra-capitalistes qui ne veulent pas payer d'impôts et qui vendent de la drogue pour placer tout ça à Dubaï. Donc je ne vois pas le rapport avec Jean-Luc Mélenchon. Mais enfin, passons. En tout cas, on peut dire que la défense par place publique de la laïcité, oui, il y a peut-être un résidu de gauche. Mais à mon avis, c'est une gauche en quitte, c'est une gauche détachable, parce qu'ils sont par ailleurs pour l'Europe, ils sont pour le sceau européen. Mais à l'intérieur de l'Union européenne, cette question de la laïcité à la française, elle passe complètement à la trappe. Donc à mon avis, ils sont tout à fait prêts à la liquider. Autre explication, ça vient du rocardisme, cette gauche américaine, c'est elle qui a inventé Terra Nova et la conversion sociétale de la gauche. On l'a oublié. Ensuite, Raphaël Glucksmann, et j'en termine là-dessus, pourquoi il monte? Il monte parce qu'Emmanuel Macron baisse en réalité. Et il y a une énorme proximité entre les idées, mais aussi l'électorat de Glucksmann, et de Valérie Ayer, par exemple. C'est elle-même qui le dit. Les électorats sont proches. Ils votent quasiment comme un seul homme au Parlement européen. Donc, quand on est pour, finalement, l'accélération du fédéralisme européen, quand on est... D'ailleurs, oublions pas que Raphaël Glucksmann, les origines sont toujours intéressantes, et pour la gauche, et pour Raphaël Glucksmann. Il a commencé dans l'entourage de Nicolas Sarkozy, ses premiers pas en politique. Donc, je pense que le succès de Raphaël Glucksmann, c'est pas du tout le succès de la question sociale, c'est pas du tout le retour à la gauche des origines, et je pense que le 21e siècle n'est malheureusement plus le siècle de la question sociale et du progrès, c'est le siècle de l'identité et de l'individu. Et l'identité et l'individu, à mon avis, c'est tout sauf la raison et le progrès.
Je vous sens piétiné.
Oui, parce que...
Piaffé, plutôt.
Oui, parce que quand on dit Glucksmann représente la laïcité, il ne représente pas la laïcité. Il est dans la continuité de Benoît Hamon, avec des femmes voilées, ils sont pour. Alors où est la laïcité là-dedans? C'est-à-dire qu'on est avec des gens qui sont les porteurs du wokisme, qui sont les porteurs de ces courants venus de l'autre côté de l'Atlantique, mais je ne vois pas du tout où on peut les situer dans cette logique d'un héritage foncier de la gauche.
Je crois que Raphaël Glucksmann, malgré tout, s'inscrit dans une gauche assez républicaine. C'est d'ailleurs cet électorat qui peut-être s'y retrouve, même si quand on regarde le détail de sa liste, c'est tout le paradoxe, hein, parce que je pense que beaucoup d'électeurs, peut-être, peuvent, macronistes, peut-être même de droite, pourraient se sentir tentés par Raphaël Glucksmann, moins quand ils regardent le reste de ce qu'il y a sur sa liste.
Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est un
Alors, pardon, je vais répéter ce que j'ai dit hier. Je pense que cette gauche, la gauche de Raphaël Glucksmann, pour paraître bien élevée, propre sur elle et plus fréquentable que celle wokiste, a accouché de cette autre gauche. Aujourd'hui, elle ne la reconnaît plus. Mais on en est bien à l'origine. Je crois que faire une scission entre les deux, c'est leur faire bien de l'honneur et les dédouaner un peu vite en réalité. Il y a une vraie filiation.
Il y a une vraie filiation, mais ils sont quand même séparés, comme les communistes et les socialistes se sont séparés à partir d'une matrice commune. L'important n'est pas tant ce qu'ils
ont fait. Oui, il y a une matrice commune.
Je suis d'accord avec vous, voilà, Gabriel, on peut raisonnablement plaider le fait qu'ils soient les auteurs de la nouvelle gauche, mais enfin, l'important, c'est ce qu'ils disent aujourd'hui, l'important, c'est ce qui passera demain.
J'ai peut-être pas été assez clair, mais effectivement, il est issu de cette gauche américaine qui a inventé Terra Nova, on est tous d'accord.
En attendant, c'est le Rassemblement national qui est en tête pour les européennes. Et aujourd'hui, ce 1er mai a été marqué par un meeting à Perpignan où Jordan Bardella et Marine Le Pen se sont affichés pour la première fois depuis le début de cette campagne. On va voir quelques petites images. En fait, normalement, théoriquement, ils ont dévoilé les 35 premiers noms de la liste européenne. Marine Le Pen a notamment prôné une Europe sociale. Voilà, c'était juste pour parler un petit peu de l'actualité. On aimerait bien faire un tour de table, mais bon, on va continuer, on a beaucoup de sujets. Jean-Sébastien Ferjou, j'aimerais vraiment qu'on s'arrête sur votre sujet ce soir, parce que vous qui êtes à la tête d'Atlantico, vous avez travaillé ce dossier. Alors qu'on a vu aujourd'hui des drapeaux palestiniens dans les défilés aujourd'hui, l'ayatollah Khamenei, guide de la révolution islamique iranienne, il a publié aujourd'hui un deuxième tweet, on avait montré le premier ici, aux étudiants américains, de soutien aux étudiants américains et occidentaux qui occupent les universités. Première question, qu'est-ce qu'il exprime exactement et quelles conclusions, selon vous, on peut tirer de ces tweets de cet Iranien ?
D'ailleurs, il en a publié toute une série aujourd'hui, l'ayatollah Khamenei, ce qui montre bien que les mobilisations dans les universités occidentales, ça l'intéresse. Moi, ce que ça m'inspire dans un temps, c'est quand même un peu comme si Pablo Escobar, enfin, l'ayatollah Khamenei qui se préoccupe du bien-être des étudiants occidentaux, c'est un peu Pablo Escobar se préoccupant des ravages de la vapoteuse. Hein. Enfin, c'est à peu près du même ordre. On me revient d'ailleurs à l'esprit cette définition qui était rentrée dans le dictionnaire de l'Académie française en 1694 pour le mot tartuffe, un coquin se servant du manteau de la religion, dit autrement une personne hypocrite. Mais qu'est-ce qu'il dit véritablement ? Déjà, il ne parle absolument pas de mobilisation pro-palestinienne, il parle bien de manifestations anti-israéliennes. Les Perses aiment beaucoup les félins, mais on voit qu'il sait au moins appeler un chat, de ce point de vue-là. Après, qu'est-ce qu'il dit politiquement dedans ? Parce qu'il développe la vision qui est celle de l'Iran en disant, en réalité, il faut demander aux Palestiniens s'ils veulent supporter, l'expression qu'il emploie, les sionistes sur le territoire de la Palestine. Donc c'est un peu finalement la rhétorique d'un seul État, avec, on le sait, quand même malheureusement une majorité de Palestiniens qui vraisemblablement ne sont pas en faveur du maintien d'Israël s'ils avaient le choix. C'est là où il y a toute l'ambiguïté d'ailleurs. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est que, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pourquoi s'intéresse-t-il autant à ces manifestations-là ? Eh bien, les services de renseignement sont en train de commencer à se poser la question s'il n'y a pas la main de l'Iran derrière, non pas forcément l'organisation, mais à minima peut-être la manipulation de ces mouvements qu'on a vu se développer aux États-Unis comme en France. Ça a été confirmé à Emmanuel Razavi, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un grand reporter qui collabore avec Paris Match, qui a publié un livre passionnant qui s'appelle « La face cachée des Mollahs ». Les services de renseignement iraniens lui ont confirmé qu'effectivement, depuis le 7 octobre, il s'était intéressé à manipuler les mobilisations dans les pays occidentaux. Alors pourquoi le font-ils ? Ben, ils ont un double objectif, un objectif assez évident de soutien au Hamas, de soutien au Hamas finalement dans la guerre des nerfs, la guerre psychologique, qui est celle que le Hamas mène face à Israël pour essayer de conquérir les âmes ou les cœurs des occidentaux. Alors ce qui n'était pas forcément si évident que ça sur le papier, parce que les Iraniens sont chiites, le Hamas est un mouvement sunnite et que les chiites et les sunnites, en général, entretiennent des relations extrêmement hargneuses, pour ne pas dire plus. Simplement, quand on regarde l'ayatollah Khomeini, pour le coup, le prédécesseur de l'ayatollah Khamenei, celui qui avait fondé, qui avait inspiré la révolution islamique en 1979, lui, il dit s'être beaucoup inspiré de Sayyed Qoutb. Et Sayyed Qoutb, c'est qui ? C'est l'un des principaux théoriciens des frères musulmans. Donc ça explique, comme le Hamas est lui-même inspiré des frères musulmans, ça explique cette alliance. Deuxième objectif, c'est la déstabilisation des démocraties occidentales. Les services russes, on le sait, ce sont les services secrets russes qui forment les services secrets iraniens. Ils se sont là aussi regroupés ces dernières années pour essayer de déstabiliser les démocraties occidentales. Non pas qu'ils veuillent forcément mener des révolutions ici, mais ils savent qu'appuyer sur toutes les fractures dans les opinions occidentales, c'est nous fragiliser face à ce nouvel axe des régimes autoritaires dans lequel justement on compte l'Iran, la Russie, pour partie la Chine, pour partie la Turquie.
Jean-Sébastien Ferjou, comment expliquer que le régime iranien arrive à trouver justement des alliés, voire des interlocuteurs à minima, ici, en France, en Europe ? Et en plus, en connaissant la férocité intérieure et son hostilité farouche aux démocraties occidentales, ce que vous venez de dire, on ne comprend pas ce paradoxe.
Oui, parce qu'il faut le rappeler, pour les Iraniens, pour le régime iranien, les mollahs, les États-Unis, c'est le grand Satan, et la France, c'est le petit Satan. Donc, dans leur liste d'ennemis, nous sommes proches de ce que représente aussi Israël à leurs yeux. Mais comment jouent-ils ? Ils jouent sur trois types de profils, finalement. Les naïfs, ou en tout cas ceux qui sont animés de bons sentiments, parce que, évidemment, que la mobilisation pour la cause palestinienne est une cause en soi parfaitement légitime. Évidemment qu'on ne peut que se sentir rempli d'émotion ou d'effroi quand on voit ce que subissent les civils palestiniens, mais sauf que là, ils essayent de les manipuler. La deuxième cible, ce sont des mouvements dans les milieux universitaires, des personnalités plutôt issues de l'extrême gauche. Et on entend d'ailleurs, faites attention, il faut écouter les slogans employés, ce sont bien souvent mot pour mot les slogans qui sont émis par le régime iranien. Alors, les communiqués de la France insoumise, quand on a lu les communiqués de la France insoumise après le 7 octobre, bien souvent, il y avait mot pour mot ce qui était dit par le régime iranien. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de convergence idéologique. Et puis le dernier point, il s'appuie sur les réseaux islamistes et notamment ceux des frères musulmans ou les réseaux du Hamas en Europe, puisque là encore, il y a une continuité assez évidente. Florence Bergeau-Blaquer, que vous connaissez, vous savez, cette chercheure au CNRS, menacée pour avoir justement publié un livre sur les frères musulmans, le confirmait. On a repéré Elias Dimzalen, à la manifestation de Sciences Po. Alors je ne vous dis pas que lui est en relation avec le régime iranien, mais enfin, il était présent à cette manifestation. Comment se définit ce monsieur ? Lui, il dit qu'il est un influenceur communautaire et politique musulman, et que d'ailleurs, il préfère l'étiquette d'islamien à celle d'islamiste. On lui laisse le choix des mots de ce point de vue-là, mais on voit bien que tous ceux qui sont en lutte contre ce qu'ils appellent l'islamophobie, et qui est en réalité une manière de contester la laïcité, parce qu'encore une fois, il est parfaitement légitime de défendre les musulmans en tant que personne. Il est aussi possible de critiquer l'islam en tant que foi, que confession ou qu'idéologie, aussi bien qu'on peut critiquer le judaïsme, le christianisme, le libéralisme, le communisme, tout ce qu'on veut, c'est la conception de la laïcité et de la liberté d'expression. Mais cette stratégie d'alliance, elle est très intéressante parce que ça évoque quoi ? Emmanuel Razavi, dont je vous parlais tout à l'heure, le raconte très bien. La révolution islamique en Iran, elle a commencé comme ça, en 1978. Elle a commencé comme ça dans les universités, par cette alliance entre l'extrême gauche et les islamistes. Il y avait à l'époque un communiste iranien qui s'appelle Sultanzadeh et qui avait théorisé ça. Il disait « Les ennemis de mes ennemis sont mes amis ». En plus, ils s'étaient rencontrés bien souvent dans les prisons puisqu'ils étaient tous opposants au chat. Sauf qu'une fois que la révolution a eu lieu, les ennemis de mes ennemis, une fois qu'il n'y a plus l'ennemi, ils deviennent ennemis eux-mêmes. Et l'ayatollah Khomeini lui a pas fallu longtemps pour émettre une fatwa qu'ils ont tous condamnés à mort. Soit dit en passant, d'ailleurs, ceux qui sont venus aider à la répression féroce à l'époque étaient les militants palestiniens de l'OLP.
Jean-Sébastien, le terme islamo-gauchiste a été fortement contesté par un certain nombre d'universitaires et même le CNRS. Comment expliquer cette contestation alors que la seule histoire iranienne suffit à en établir l'existence ?
C'est une très bonne question, Christine.
Merci beaucoup.
Qu'il n'y avait pas de réalité scientifique à ce concept, alors que, comme je viens de vous l'expliquer, en réalité, ça date d'il y a très longtemps. Parce que le fameux Sultanzadeh, figurez-vous qu'il s'appelait Aftis Mikhaelian, et que dans les années 10, il est parti en URSS, qu'il a rencontré Lénine, il est devenu conseiller de Lénine, et qu'ensuite, il est devenu le représentant du parti communiste iranien. Et c'est lui qui a théorisé cette alliance entre les islamistes et l'extrême-gauche radicale. Et c'est comme ça qu'ils ont pris le pouvoir en 1979. Après, ça n'est pas qu'une histoire iranienne. c'est aussi une histoire française, déjà parce que la révolution iranienne elle-même a une composante française, vous vous en souvenez, l'ayatollah Khomeini était réfugié à Neufle-le-Château, dans les Yvelines. En France, l'ayatollah Khomeini a été soutenu par Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, philosophe, fondateur, cofondateur de Libération, qui faisait partie du comité de soutien à l'ayatollah Khomeini.
Beaucoup de noms dits sur cette question.
A été soutenu par Michel Foucault. Vous savez, le philosophe Michel Foucault, militant des droits homosexuels, c'est un peu étonnant parce que l'ayatollah Khomeini, dans son livre qui était le programme de la Révolution, il disait qu'il voulait tuer tous les homosexuels. Mais enfin bon, le Seigneur a des voix impénétrables, dit-on. Mais effectivement, il y a une dimension française. Et cette dimension française, elle n'était pas qu'en 1979. Elle est encore aujourd'hui. Le fameux Elias Dimzalen, dont je vous parlais tout à l'heure, je vous invite à aller voir sur la chaîne YouTube du NPA. Vous savez, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, celui d'Olivier Besancenot, de Philippe Poutou, ce même NPA qui, après le 7 octobre, a félicité le Hamas, ils ont mis en ligne une conférence dans laquelle Elias Dimzalen explique justement toute cette alliance entre l'extrême-gauche et l'islamisme et expose tranquillement tout son programme d'islamisation de la France, de la Palestine et d'ailleurs du monde entier, tout en se félicitant qu'à gauche, il y ait des gens, effectivement, pour les soutenir. Donc, il a pu parler des indigénistes. Vous savez, le parti indigéniste, ce fameux parti qui considérait que Jean-Luc Mélenchon était une prise de guerre. Eh bien, voilà, il se félicite tout haut. Alors, d'autres nous disent, mais non, évidemment, ça n'existe pas. Eh bien, je ne sais pas, effectivement, si ça n'existe pas, quelle autre preuve il faudrait. Et d'autant que, regardons ce qui se passe à l'heure actuelle, il y a aussi, en même temps que ces manifestations, une résurgence des affaires de voile. On l'a vu avec Geox, on le voit à un certain nombre d'endroits en France, on l'a vu encore sur Mediapart, il y a deux jours, avec Mariam Pougetou, vous vous souvenez, cette leader de l'UNAFIDE qui était voilée, ce qui est son droit le plus strict, mais on voit une espèce de mobilisation. Elle apparaissait d'ailleurs aux côtés des auteurs du fameux livre sur les musulmans, les Français musulmans qui quittent la France. Auteurs dont un certain nombre d'experts comme Mohamed Sifaoui, Naim Bestanji et autres ont établi qu'ils étaient eux-mêmes proches des frères musulmans et qui reprennent curieusement la rhétorique des frères musulmans, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il ne puisse pas y avoir de racisme ou de discrimination dont seraient victimes les musulmans en France. Mais donc, moi je lance un concours peut-être sur Twitter, Christine, puisque l'islamo-gauchisme n'existe pas selon nos éminents universitaires, comment appeler cette alliance-là, dont pourtant certains ne se cachent absolument pas et qui existe, comme je vous le disais, pas depuis 2 ans, mais depuis quasiment un siècle.
Je sais que Marc a envie de réagir, on fera un tour de table. En attendant, d'un instant à l'autre, on aura un point du préfet de police de Paris, Laurent Nunez, sur le bilan des manifestations aujourd'hui. Donc je peux vous interrompre à tout moment. Marc, maintenant, vous avez envie de réagir par rapport à...
Oui, il y a beaucoup de choses à dire.
Oui, mais mot pour chacun.
C'est formidable. Sauf que la complicité vis-à-vis de l'islam et de Khomeini débordait largement la gauche. C'est-à-dire Khomeini retourne en Iran grâce à Giscard d'Estaing. C'est avec nos finances publiques. Et quand on lisait la presse à l'époque, en 1978, là, effectivement, avant tout la presse de gauche, on présentait Khomeini comme une sorte d'incarnation bouddhiste. On le prenait en photo en disant « C'est extraordinaire, allez voir cet homme devant son arbre, il prie,
c'est un saint. » Michel Foucault avait dit que c'était un saint.
Voilà, exactement. Vous voyez, vous prenez le mot « voleur ». C'est un saint, c'est un homme que nous devons copier. Il représente l'avenir de l'humanité parce qu'il a cette incandescence spirituelle.
Donc aujourd'hui, Gabriel Cuzel, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, lorsqu'on voit aujourd'hui 1er mai, des drapeaux palestiniens dans les défilés, tout ça pour ça, tout ça vient de là.
Oui, quel rapport avec la fête du travail ? Il va falloir qu'on m'explique, j'ai pas tout compris, avec les drapeaux palestiniens. Non, ce qui est intéressant, c'est que c'était déjà la même rhétorique, parce que le chat a été accusé, finalement, d'avoir été trop occidental. On l'a accusé de beaucoup de péchés, mais en réalité, on lui a reproché d'avoir occidentalisé son pays et d'être lui-même très occidental. Et moi, je vois, quand je vois Ersilia Soudé qui soutient les Mollahs, vous savez, les avait défendus, le Mollah devait être drôlement content d'avoir ce soutien de poids. Je me dis, mais c'est quand même un oxymore, l'islamo-gauchisme, la gauche qui est extrêmement libertaire, progressiste en matière de mœurs. Comment peut-elle s'accommoder de ce qui se passe en Iran ?
Moi, j'ai beaucoup aimé dans la chronique de Jean-Sébastien le fait de rappeler que derrière l'Iran, il y a la Russie. C'est d'ailleurs ce qui rend la situation dangereuse, parce que l'Iran est un pays très faible, le régime a sa population à dos. Mais par contre, il y a une grande frontière avec la Russie, et une porosité d'ailleurs, une influence de la Russie sur l'Iran, qui a des pions à avancer en affaiblissant l'Occident. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais il y a un deuxième point, moi, je ne voudrais pas non plus que l'arbre cache la forêt, parce que l'influence de l'Iran en France, sans doute, elle est importante. Mais l'influence du Qatar... Où est-ce que le Hamas était? Sinon au Qatar. Bon, avec qui on a signé des accords? Avec qui? Qui va envoyer des gens ici pour sécuriser les Jeux Olympiques? Le Qatar, pas l'Iran.
Et juste d'un dernier mot, vraiment le livre d'Emmanuel Razavi sur la face cachée des mollahs est passionnant.
Merci beaucoup. Donc on rappelle aujourd'hui 1er mai, on va rejoindre le préfet de police Laurent Nunez sur la manifestation aujourd'hui et le bilan.
Voilà, donc... Bonjour Aurélie, pour faire un bilan donc, de la manifestation du 1er mai qui s'est tenue à Paris, qui a réuni 18 000 personnes. Donc une manifestation d'ailleurs qui a permis aux organisations syndicales de défiler dans le calme, même si nous avons eu à nouveau des incidents à gérer dans ce qu'on appelle le pré-cortège, c'est-à-dire un pré-cortège qui se forme devant la manifestation et qui a rassemblé jusqu'à 4 000 à 4500 personnes qui sont inclus dans les 18 000. Donc c'est 18 000 personnes, dont 4 500 personnes dans le pré-cortège. Donc on a eu donc, des forces de l'ordre qui, comme d'habitude, étaient très au large en appliquant le schéma national du maintien de l'ordre public qui est souhaité par le ministre de l'Intérieur. Donc nous étions très au large dans un processus de désescalade, comme d'habitude. Et puis nous avons eu à intervenir donc, une première fois sur le cortège qui allait de République à Nation en passant par la Bastille. Donc nous avons eu à intervenir une première fois entre République et Bastille pour des dégradations de magasins, de commerces. Donc nous sommes intervenus pour y mettre un terme. Et donc nous avons dispersé les fauteurs de troubles. Le calme est revenu. Le cortège a pu reprendre son cours. Et puis, dans un deuxième temps, après la place de la Bastille, il y a eu plusieurs tentatives de dégradation de commerces qui, grâce à l'intervention des forces de l'ordre, ont pu être empêché, mais il a fallu intervenir à de nombreuses reprises, puisque dans ce pré-cortège, on a dénombré jusqu'à 500 à 600 éléments très radicaux, appartenant pour une grande partie d'entre eux à la mouvance d'ultra-gauche, et qui étaient très déterminés à en découdre, essentiellement avec les forces de l'ordre, bien sûr, et à dégrader des commerces. Et donc nous sommes intervenus pour empêcher tout cela. Malheureusement, il y a eu un véhicule qui a été incendié, dont l'habitacle a été incendié. Les personnes souhaitant attirer les forces de l'ordre pour venir éteindre ce véhicule et donc de nouveau se confronter avec elle. Et nous avons eu des dégradations d'un commerce McDonald's. Mais pour le reste, il y a eu, les incidents ont été systématiquement empêchés. Et je veux évidemment en remercier les forces de sécurité intérieure, ceux de la préfecture de police, les gendarmes mobiles qui étaient engagés, les membres des compagnies républicaines de sécurité qui étaient engagés, les sapeurs-pompiers également de Paris qui sont intervenus à de nombreuses reprises pour éteindre des feux de poubelle. On a eu 4 feux de poubelle. Certes, c'est pas beaucoup, mais il fallait intervenir au milieu d'une foule qui était parfois hostile. Et donc, je veux évidemment remercier l'ensemble des forces de sécurité intérieure mobilisées pour cette manifestation. On a 13 effectifs qui sont légèrement blessés, mais qui ont quand même dû être conduits en milieu hospitalier, notamment 9 gendarmes mobiles et 4 policiers. Et donc voilà, je veux évidemment remercier l'ensemble des forces de sécurité intérieure pour leur engagement en ce 1er mai, qui ont permis, comme à chaque fois dans les manifestations, que les cortèges syndicaux puissent se dérouler sans heurts, en réussissant à écarter et à empêcher de nuire les fauteurs de troubles qui, dans le pré-cortège, je le dis, je tiens à le souligner, étaient extrêmement nombreux. Voilà ce que je voulais vous déclarer. Encore une fois, je remercie vraiment l'ensemble des effectifs de la préfecture de police et tous ceux qui sont placés sous mon autorité, notamment les CRS et les gendarmes mobiles, pour leur engagement.
Voilà, vous avez pu suivre en direct le point presse du préfet de police qui a expliqué à quel point les manifestants ont été maîtrisés, qui félicite l'excellent travail des forces de l'ordre. On a pu le remarquer effectivement ce soir. Donc on voulait absolument vivre ce moment du bilan des manifestations en direct. C'est vrai que lorsque ça ne va pas, on le dit, et lorsque c'est maîtrisé, et lorsque les forces de l'ordre font... Qu'est-ce qu'il y a, Marc Menant ?
Non, mais c'est dire que depuis que Monsieur Nunez est là, il y a quand même une différence avec l'allemand.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'incidents et ça dégénérait sous l'allemand. Et là, vous voyez, apparemment, il maîtrise mieux ses hommes.
Voilà. Donc voilà.
L'allemand est à la préfecture de police, c'est jamais bon signe.
Moi, j'ai été quand même frappée parce que je ne sais pas si vous avez vu cet extrait qui a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Il y a une camionnette qui a brûlé quand même,
il faut
le dire.
Il l'a dit.
Et la personne qui en était propriétaire est une restauratrice, une créatrice de vitraux. Elle était désolée parce qu'elle devait partir sur un chantier le lendemain. Et j'ai vraiment été frappée par cette opposition. Symbolique entre la France du grand soir qui détruit et la France du petit matin qui construit.
Justement, la France du petit matin qui construit. On fait un lien direct avec votre chronique, Marc Menant, puisque on disait aujourd'hui, je le disais en titre tout à l'heure, qu'il n'y a jamais eu autant de Français au SMIC depuis plusieurs décennies. 17%, plus de 17%, ça fait près d'un Français sur cinq. Et Marc Menon, on a envie de vous entendre aujourd'hui. C'est la fête du travail, la Saint-Joseph. On a envie de comprendre qui sont ces travailleurs qui se lèvent le matin, comme disait Gabriel, qui vont travailler, qui font cet effort, qui ne sont pas dans la cistana et pour autant, ils n'arrivent pas à vivre et à joindre les deux bouts. Il faut penser à eux ce soir. Comment en est-on arrivé là? Beaucoup de questions.
Beaucoup de questions, et puis ça complète un peu ce que nous évoquons depuis tout à l'heure, à savoir, pour autant, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue tels que ça pouvait se passer au 19e siècle pour dire « Attendez les gars, maintenant on est en train de crever, faites quelque chose pour nous ». Il y a une sorte de résignation à cet état alors que la souffrance est là patente. Je ne ferai pas très attention à ce que je dirais parce que malheureusement ma spontanéité m'emporte, mais néanmoins je demande à Jean-François d'intervenir si je disais une bisette.
Jean-Sébastien,
pardon. Et alors, revenons à cette notion. C'est le salaire brut tel qu'il apparaît pour ces gens qui touchent le SMIC. 1766,92 €. C'est important parce que pour certains, quand on a une certaine tranche, les 92 centimes, on s'en moque un peu. Chez eux, ça commence à compter, les 92 centimes. Et ça fait du net à 1399,69 €. 1,3% d'augmentation. Alors, quand on vous dit
1398, hein, non mais qu'on voit. 1398,69 €.
Et j'ai dit
99, c'est pas bien grave, continuez mon chéri.
Ah, je me trompe sur les centimes, c'est ça?
Non, sur le...
On arrive à lire.
C'est pas grave, vous avez donné un petit euro en plus, c'est comme ça compte, et c'est très... votre chronique est très importante.
Oui, on est d'accord.
Dites-nous.
Pardon. Et dans cette logique-là, on affiche 1,3%, et si véritablement la hausse des prix est importante, on monte de 2%, il y a un automatisme, afin de combler le trou. Mais vous vous rendez compte, on parle de pourcentage sur des salaires aussi faibles. Quand on regarde dans la réalité, c'est du 10, 15, 20 euros. C'est-à-dire, même pas de quoi faire un panier quand vous passez à la caisse au magasin. Et c'est cela qui est terrifiant. Et là, on est dans les dépenses du quotidien. Mais quand vous avez un tel salaire, que vous cherchez à vous loger dans une grande ville, regardons le prix des loyers. Vous n'avez pas le moindre 20 mètres carrés ou 25 mètres carrés en région parisienne à moins de 800 euros. Alors 800 euros que vous retirez de 1300, le chiffre qui est affiché, je ne veux pas me tromper deux fois, il reste quoi pour le quotidien? Mais vous avez aussi dans ce plan de travail le temps de transport qui est énorme, c'est-à-dire que beaucoup de gens ont trois quarts d'heure, une heure et demie le matin, plus une heure et demie le soir, la journée de travail pour ce salaire-là, et les enfants. Alors après, on dit, vous vous intéressez beaucoup aux familles monoparentales, mais que fait-on des enfants dans ces conditions-là, quand vous ne pouvez pas vous présenter à l'heure de la sortie de l'école? Bien, c'est le désastre que l'on note un peu partout, à savoir cette errance qui tourne à la désespérance et qui entraîne les gamins dans un système destructeur, et pour eux, et pour la société. Alors, comment, moi je ne suis pas économiste, mais comment peut-on rester dans cette logique de salaire aussi bas? N'oublions pas non plus la partie du travail au noir. Parce que M. Attal disait au mois de... Il y a un mois, il disait, on a 1,2 milliard de redressement et eh bien, ça montre bien que le travail au noir. Mais moi, j'ai trouvé, en 2019, le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale disait qu'il y avait 6 milliards de déficit par rapport à ce travail au noir dans la rentabilité des caisses de l'État, puisque théoriquement, si vous êtes déclaré, vous devez avoir une partie qui passe dans les rétributions sociales. Nous avons aussi, dans toute cette logique-là, les petits, là, on s'émerveille du muguet, on a raison, mais le nombre d'emplois qui se font sur les saisonniers. Or, la rétribution du saisonnier se fait avec le SMIC, un SMIC horaire de 9 euros à peu près, net. Mais c'est un travail très temporaire. Alors vous pouvez passer du muguet, après attendre la saison des pêches, la saison des fraises, vous pouvez avoir la partie sur les pommes, les poires, etc., etc. Mais vous êtes en train de courir ici et là. Comment, dans ces conditions, avoir une vie sociale ? Je crois que notre société est véritablement très malade. Il est normal qu'il y ait une prime, un encouragement à ceux qui osent investir pour créer de l'emploi. Mais quand l'emploi aboutit à une telle désespérance, à un tel étiage de rentabilité, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelle solution trouver ? Je n'en sais rien. Mais n'oublions pas aussi, et c'est là où la part de l'immigration joue un grand rôle, parce que le BTP, alors j'ai retrouvé aussi là des chiffres, c'est 5,8% de gens qui travaillent au black. Vous avez la restauration, etc., etc. Et c'est là où on est dans la concurrence de la misère. On va chercher ceux qui arrivent, on leur dit débrouillez-vous, on ne veut pas savoir quel est votre quotidien, c'est la restauration. Ce sont dans les emplois, certains aussi, qui ont là bien nanti, mais pour engager la petite baby-sitter, pour engager quelqu'un qui vous fait la cuisine, pof, on le paye au noir. Mais dans ces conditions, vous ne favorisez pas l'emploi de ceux qui n'attendent qu'une chose, de pouvoir être dans le désir de se lever le matin et d'avoir la sensation d'être respecté. Car quand vous avez de telles sommes, vous n'êtes pas respecté, vous ne vous sentez pas, vous ne pouvez pas être mobilisé. Quand on dit certains traînassent, ben oui, comment ne pas traînasser ? Il y a des emplois qui vous coûtent plus cher avec le temps de transport que si vous restez chez vous en attendant les aides. Quelle est cette façon d'envisager une situation sociale ? Et la gauche, et là on revient à l'édito de notre camarade Bigot tout à l'heure, la gauche qui se focalise sur certains points, l'indigénisme, de quoi on peut souffrir, etc., etc., il n'y a plus du tout cet appel au social, cette réalisation de l'espoir des plus démunis. Ils ne combattent pas pour ça, ils combattent pour un petit univers qui est bien loin des réalités.
Merci beaucoup Marc Menant. Et je disais qu'en fait, la Saint-Joseph artisan le 1er mai, le saint patron des travailleurs. Et il y a beaucoup de sujets que j'aimerais qu'on aborde encore aujourd'hui. Peut-être juste un mot, Gabriel, avant votre chronique sur Isabelle Surplis. Je voulais qu'on puisse l'entendre et tout, mais je ne sais pas si on aura le temps. On n'aura peut-être pas le temps, qui est menacée de mort. C'est la seule femme, en tout cas la première, on espère la dernière, femme élue. Menacée de mort et on n'en parle pas. Juste un mot pour...
Oui, c'est assez terrifiant. Isabelle Surplis, elle est conseillère régionale, elle, c'est une mère de famille, elle a, parce que je le précise, parce qu'elle a aussi peur pour ses enfants qui ont été aussi menacés. Elle fait l'objet, depuis qu'elle a dénoncé un imam comorien qui a été expulsé, puis une mosquée Miligurius qui est pour lequel elle a des preuves de dérive islamiste, hein, eh bien, elle est menacée. On trouve des tags sur des écoles privées, et il y en a même eu dans des écoles publiques. On menace de l'égorger, on menace en même temps les Arméniens et les Azéris. Et c'est vrai qu'elle est très seule. Je me demande quelle féministe va se saisir de cette affaire. Pour le moment, je n'en vois aucune.
On ne voulait pas ne pas en parler, même si on en a parlé beaucoup sur CNews depuis ce matin. Dans un instant, juste après votre chronique, on fera un tour de table sur une question. Est-ce que la France est un pays de racistes dégénérés ? On en parle dans un instant, pardon, mais c'est quelqu'un qui pose la question, tout en subtilité.
Le suspense pèse
oui, sur votre réponse. Oh, on peut avoir des surprises, surtout avec Marc Menant. Non, je rigole. Mais non, on fera un tour de table. Non, parce que la question, elle est importante et on terminera
surtout
avec...
Surtout pas le Gorafi qui a proposé ça, en fait. Non. C'est ça, le truc.
On en parle. Gabriel Cluzel, on va aborder avec vous Matisse. Aujourd'hui, nous avons été tous émus par la lettre du père de Matisse, tué à Châteauroux par un jeune Afghan de 15 ans qui a ému « Tu ne mérites pas ça, personne ne mérite ça, mais surtout pas toi », a crié le père de Matisse aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et une lettre vraiment très, 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 très émouvante qu'il appelle son fils Matou et qui nous nous a vraiment émus. Et aujourd'hui, nous savons désormais un peu plus sur le profil du meurtrier présumé de Matisse. Et là, on veut essayer de comprendre avec vous ce soir pourquoi, en sachant qu'il est violent, en sachant qu'il est dangereux, qu'on n'arrive pas à expulser un profil tel que celui-là.
Exactement. Alors, il a 15 ans, il appartient à une fratrie de 5, il est né à Kaboul. Et alors, il s'est arrivé, moi j'ai des sources divergentes sur ce sujet, en France pour certains en 2014, pour d'autres en 2017, mais quoi qu'il en soit, avant 2021, avant l'accession des talibans au pouvoir. Et c'est une famille bien connue des services de police et des membres des forces de l'ordre, des policiers, disent même qu'ils préfèrent l'éviter. Si vous avez entendu Louis Dragnel sur ce sujet, c'est très intéressant. L'éviter parce qu'ils se font insulter et qu'ils préfèrent ne pas risquer de perdre, ils préféraient ne pas risquer de perdre leur nerf avec ce garçon. C'est les adolescents qui l'ont côtoyé, interrogé par les médias, notamment notre reporter de Boulevard Voltaire, corrobore cette description. Et puis, il avait publié aussi des vidéos anti-policiers. On le voyait brandir un drapeau afghan. Et puis, on le voyait aussi brandir un couteau à la recherche d'on ne sait quel ennemi dans une cité. Et puis, il avait été, et ça c'est vraiment tout à fait objectif, visé par deux procédures liées à des vols de portables avec violence et sous menace d'un couteau, les deux, et assorti pour l'une d'elles à une mise en examen et un contrôle judiciaire dont tout le monde conviendra qu'il n'a pas été très efficace, très probant. Alors, sa mère, vous savez, sa mère est aussi mise en cause dans cette affaire. Elle a été remise en liberté sous contrôle judiciaire. Elle a été mise en examen pour violence volontaire sur personne vulnérable. Je lis le communiqué du procureur pour avoir asséné des gifles à la victime. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Elle est décrite par ceux qui la connaissent comme quelqu'un d'instable et de vindicatif. Son audition aurait été compliquée, notamment en raison de la barrière de la langue. Donc, ça fait à minima 7 ans qu'elle est en France, peut-être 10, et la langue, le français, est toujours une langue étrangère pour elle. Voilà les premiers éléments.
Les premiers éléments. Alors on va aller plus loin, Gabriel, parce que même si le contexte, cette fois, n'est pas terroriste, on peut, et vous avez trouvé, des similitudes avec l'assassin de Samuel Paty et celui de Dominique Bernard.
Exactement, c'est très frappant. En effet, Abdoulak Anzorov, l'assassin âgé de 18 ans de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, est un citoyen russe d'origine tchétchène. Et il bénéficiait du statut de réfugié accordé à ses parents alors qu'il était mineur. Il était connu des services de police pour des faits de dégradation de biens publics et de violences en réunion commis alors durant sa minorité. Alors après l'assassinat de Samuel Paty, son père, je ne sais pas si vous en souvenez peut-être, s'était félicité auprès d'un youtubeur tchétchène, d'un influenceur tchétchène de l'acte de son fils. Alors là, pour le coup, la famille a fini par être expulsée, mais évidemment trop tard. Et puis passons à l'assassin de Dominique Bernard, donc c'est l'assassin Ingush, âgé de 20 ans. Mohamed Bogushkov, donc à Arras. Il était arrivé sur le sol français avec sa famille à l'âge de 5 ans. Alors on se souvient là aussi sans doute que sa famille avait été déboutée. Vous vous souvenez peut-être du droit d'asile. Mais des associations s'étaient violemment opposées à cette expulsion. Donc oui, ils étaient restés. Et la famille vivait vraiment dans un islamisme radical d'atmosphère. L'un de ses frères, avant le drame, avait été interpellé parce qu'impliqué dans un projet d'attentat contre l'Élysée, rien que ça, en 2019, et condamné pour cela à 5 ans de prison. Et quant à l'auteur des faits, étant arrivé en France avant ses 13 ans, de toute façon, il ne pouvait être expulsé en raison de la protection absolue d'éloignement dont il bénéficiait du fait de son âge. Alors, si je dois résumer les trois cas, alors vous l'avez dit, évidemment, il y en a deux qui sont terroristes, le dernier non, mais nous avons affaire à des environnements familiaux issus de cultures très éloignées de la nôtre, c'est le moins qu'on puisse dire, inintégrés, malgré le nombre d'années passées sur notre sol, et s'étant fait connaître défavorablement des services de police avant les crimes commis. Alors, deux familles étaient bénéficiaires du droit d'asile, la dernière ne l'était pas, mais finalement, ça ne changeait pas grand-chose, elle était restée. Toutes trois bénéficiaient des largesses sociales diverses et variées de la France, en dépit de leur comportement inquiétant caractérisé.
Alors pourquoi, en dépit de ces signaux, comme vous dites Gabriel Cuzel, et du contrat moral, on va dire, de bonne conduite qui devrait unir, on va dire, tacitement celui qui est accueilli et le pays qui accueille, ces familles étaient-elles toujours en France ? C'est la question que beaucoup se posent.
Oui, parce que si nos dirigeants géraient la France en bon père ou bonne mère de famille, cette expression a disparu du code civil, mais néanmoins elle est dans l'esprit de chacun, soucieux de la protection de leurs citoyens comme des parents de celle de leurs enfants, ils auraient évidemment fait en sorte que ces familles accueillies généreusement soient renvoyées illico chez elles à la première incartade. Des parents, vous voyez, qui accueilleraient des étrangers mettant en péril leurs propres enfants, seraient accusés d'être des parents indignes et irresponsables. Alors, en toute logique, si je poursuis le raisonnement, on serait en droit de dire que nos dirigeants en la matière sont indignes et irresponsables. Alors je voulais faire d'ailleurs une petite remarque. On invoque souvent la charité chrétienne, on convoque le pape François, on appelle son magistère pour convaincre des Français récalcitrants à l'accueil. On se souvient tout d'un coup qu'ils ont un fond chrétien, des racines chrétiennes, c'est des choses qu'on oublie tout le reste du temps, et on essaie de faire jouer cette fibre. Sauf que le philosophe Chesterton avait bien raison de dire que notre monde moderne est empli de vertus chrétiennes devenues folles, car la charité, ce n'est pas cela. Et je rappelle ce mot d'un père abbé du Barou qu'en 2015, j'ai lu sur un site qui s'appelle Aletheia. Vous savez, les bénédictins, c'est Saint-Benoît, lors de Saint-Benoît, les abbayes bénédictines ont une vocation d'accueil. Et elles disent, l'accueil charitable de l'étranger n'est pas sans condition, car Saint-Benoît exigeait aussi des moines un peu de prudence. Et écoutez bien, si un autre se montre revendicatif et indiscret, on doit le congédier. Donc je crois qu'il faut arrêter d'instrumentaliser la charité chrétienne. La parenthèse est fermée.
Alors, la vérité est que nous sommes toujours à pieds et poings liés. Gabriel Cluzel, en dépit de la loi immigration qui a occupé l'actualité pendant plusieurs semaines et des mois. Faire quelque chose? On peut rien faire.
Bah, c'est une montagne qui a accouché d'une souris, hein. Je pense que vous l'avez dit plusieurs
bien
fois
sûr,
ici. Et d'abord, ça il faut le souligner, en raison des contradictions internes de ceux qui étaient censés la porter. Et je vais vous apporter la preuve par Gérald Darmanin. C'est en novembre 2023, au moment où le Sénat abordait l'examen de l'article 9 du projet de loi immigration. Vous savez, le Sénat avait à cœur de rendre la procédure d'expulsion plus simple. Gérald Darmanin avait déclaré, il avait l'air tout à fait favorable, par an, il y a 2500 étrangers délinquants que j'arrive à faire expulser du territoire français et 4000 étrangers que je n'arrive pas à faire expulser parce qu'il y a des exceptions, des réserves. Cet article 9, comme l'article 10, visait à lever ces exceptions. Et il parlait là d'individus, parce que ça nous ramène à la description que vous avez faite tout à l'heure, d'étrangers dangereux, c'est-à-dire condamnés ou menaçant l'ordre public. Plus largement, des individus défavorablement connus. On est vraiment dans ce cadre-là. Alors, pour être juste, il y a eu quand même quelques modifications, simplification des procédures, mais assez dérisoire au regard de l'enjeu. En même temps, le même Gérald Darmanin, le 26 juillet 2022, sur BFM, il déclarait « Il faut le dire aux Français, il y a des gens qui ne sont pas expulsables, des gens qui viennent de Syrie et d'Afghanistan. J'assume, on ne va pas expulser en Syrie et en Afghanistan aujourd'hui des gens parce qu'on considère qu'on n'a pas de relation à avoir avec des dictatures comme des talibans. » Alors il expliquait « De toute façon, on n'a pas d'avion. Le but du jeu, c'est qu'ils fassent quand même leur peine de prison ici et qu'ensuite, on puisse les surveiller. » Vous voyez, rejoignez un petit peu Sandrine Rousseau. Et il continuait « C'est une limite que j'ai avec le Rassemblement national, par exemple, de ne pas expulser un Afghan chez les talibans. Voilà, disait-il. » Et là encore, il rajoutait, et je trouve c'est important de le souligner, « quand bien même ils auraient commis des crimes très graves. » Alors, c'est très paradoxal et kafkaïen, parce qu'en attendant, certains Afghans continuent de se voir notifier des OQTF. C'est ce que nous explique la CIMAD sur son site. Donc, ils sont envoyés dans des centres de rétention administrative. Je rappelle qu'un centre de rétention administrative, ça coûte aux contribuables 690 € par jour dans ce centre. Alors même, ça a même dû augmenter avec l'inflation, mais c'est sans issue, puisque c'est des gens que de toute façon, on ne peut pas expulser. Alors vous me direz, au moins quand ils sont dangereux, ça permet de les tenir à l'écart, mais est-ce que c'est une solution?
Alors justement, que faire en deux mots pour terminer?
Eh bien, la France, se sachant incapable d'expulser, consciente des écarts culturels énormes et religieux, le Quai d'Orsay dissuade depuis bien longtemps les Français, bien avant l'arrivée des talibans en Afghanistan, enfin au pouvoir en Afghanistan, il dissuade évidemment les Occidentaux de se balader là-bas. Il y a des enjeux de terrorisme, des sécurités sous-tendues. La France devrait être très regardante quant à l'accueil de populations provenant de ces pays, et les demandeurs d'asile devraient être orientés en toute logique vers des pays plus proches culturellement, où les demandeurs eux-mêmes ne seront pas d'ailleurs choqués par le hiatus existant, le hiatus culturel. Eh bien, il n'en est rien. Depuis 2018, les Afghans sont les premier bénéficiaire du droit d'asile en France. La France est un pays beaucoup plus accueillant que d'autres pays européens, par exemple l'Allemagne. Alors on dit que, par exemple, quand ils se retrouvent déboutés dans certains pays européens, ils viennent frapper la porte en France. Alors en attendant, bah, écoutez, que fait-on ? Rien. Le gouvernement compte sur la placidité des Français, modelée par des siècles de civilisation, pour éviter que les marches blanches se transforment en colère noire.
Marche blanche qui aura lieu samedi en mémoire du jeune Matisse. Effectivement, marche blanche au lieu d'une colère noire. Merci à Gabriel pour votre regard. Un tour de table avant votre dernier, qui va peut-être lancer votre chronique aussi. Parce qu'on a vu aujourd'hui que la journaliste Nassira El Moadem a qualifié sur X la France de pays raciste dégénéré, après la publication d'un article révélant l'interdiction du port de casque ou de collant dans le football, dans l'objectif de limiter les entorses à la laïcité. La France est-elle un pays de racistes dégénérés ? Jean-Sébastien Ferjou, vous avez l'imprimeur, vous êtes notre invité ce soir.
Nassira El Moadem est française, donc j'imagine qu'elle doit parler d'elle-même ou s'inclure dans le portrait qu'elle fait du pays. Plus sérieusement, je pense qu'il y a beaucoup de racisme, enfin à minima une forme de paternalisme chez un certain nombre de gens qui précisément voudraient que, à raison de leurs origines, on ne pose aucune question à certains ou qu'on ne les critique pas. C'est valable pour Rima Hassan. Un certain nombre de gens disent, mais si vous posez une question, c'est que ça relève du racisme. Non, ça ne relève pas du racisme. Précisément, traiter les gens, tous les citoyens français, de la même manière, et en l'espèce ce que visait Nassira El Moadem, c'est le principe de la laïcité. Donc attendre que tous les citoyens français, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs confessions, respecte la laïcité, ça ne relève pas, mais est-ce une surprise, du racisme et encore moins de la dégénérescence ?
Je pense que Jean-Sébastien Ferjou a raison, elle est française, c'est très français de dire ça. Cette haine de soi, ce masochisme, surtout dans la classe dirigeante française, c'est assez classique. Écoutez Jean-Michel Apathy qui veut raser Versailles par haine de la grandeur française. C'est un vieux classique français, en fait, finalement, de se détester soi-même. Mais là, il y a quelque chose d'autre. J'ai vu d'ailleurs que je connaissais pas cette dame qui mérite pas tellement d'être connue, apparemment. Mais c'est une European Young Leader. Donc, comme son nom l'indique pas, tout ce qui est European, donc c'est complètement mondialo-saxon, américain, comme tout ce qui est européen, évidemment. Et donc, je pense que c'est une Americanouillarde. C'est-à-dire qu'elle rêve de l'Amérique. Mais elle est comble d'une ignorance crasse. Elle oublie que Thomas Jefferson disait que tout homme libre, un des fondateurs des États-Unis, tout homme de culture a deux patries, la sienne et la France. Elle ignorait qu'au moment où les Noirs ne rentraient pas dans les bus aux États-Unis, ici, il y avait des ministres noirs. Tout ça, elle ne sait rien de tout ça parce qu'elle est américanisée jusqu'à l'os, comme notre classe dirigeante, d'ailleurs.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racisme, de là à dire qu'il y a des gens...
Tout ce qui est excessif est insignifiant.
Non, mais il peut toujours... Quel est le pays
de racistes déjà ?
Quelle qu'il soit la couleur de la population d'origine, qui n'a pas des manifestations racistes. On a même des gens qui, entre eux... ils sont blancs, eh bien, ils se détestent entre eux. Alors, faut arrêter de plaquer ce nom en permanence. Mais où, Guillaume a raison, le grand drame, c'est celui de l'inculture. Tous ces gens parlent de cet esclavage comme s'ils en étaient eux-mêmes victimes. Mais l'ensemble de la population a été victime de ces exclusions sociales que j'ai évoquées tout à l'heure, qui montrent la dureté, que dis-je, le martyr qui était celui des Français au 19e siècle, quand ils n'étaient pas dans une certaine catégorie sociale. Et cela dès l'âge de 5 ans. Alors lisez un peu, tenez par exemple Norbert Truquin, c'est les mémoires d'un prolétaire
rapidement.
Au 19e.
Merci. Non, mais rapidement.
Moi, je ne vois pas pourquoi on devrait se justifier de cette déclaration absolument insultante et odieuse. Moi, ce que j'ai remarqué sur son compte Twitter, et vous le mettez du reste en bandeau, c'est que cette personne est journaliste chez France Inter. Il y en a qui se font virer pour avoir fait l'ombre du début d'un quart de projet de bouquin. Et elle, visiblement, elle insulte les auditeurs. Elle les traite de racistes dégénérés. Ça passe crème. J'ai un peu de mal à...
Et France Inter, d'ailleurs, c'est assez raciste, alors, le nom. Je sais pas.
Bon, merci en tout cas pour votre regard. Ça fait partie des sujets que nos téléspectateurs voulaient qu'on traite et ça a beaucoup interpellé. En tout cas, peut-être un lien avec votre dernière chronique. Coup de poing, mon cher Guillaume, en 2 minutes 30 secondes, le 18 avril aux États-Unis, une vingtaine d'organisations non gouvernementales ont invité les pays ex-colonisateurs à indemniser les pays ex-colonisés. La France est mise en demeure à rembourser. On en a déjà parlé un peu rapidement ici, à, par exemple 150 milliards à Haïti. Le président portugais, lui, a expliqué qu'il allait indemniser les pays étrangers des crimes coloniaux commis par son pays, Angola, Guinée-Bissau, Cap-Vert. En quoi cette indemnisation de l'esclavage ferait-elle oublier le passé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, mais d'abord, c'est complètement injuste. Hein. Totalement injuste parce qu'on ne fait pas payer les fils ni les petits-fils des crimes des pères, des grands-pères, des aïeux, etc. Ça n'a aucun sens. Même les crimes contre l'humanité, certes, sont imprescriptibles, mais enfin, imprescriptibles jusqu'au moment où les bourreaux et les victimes meurent. Enfin, ça n'a juste aucun sens. Ensuite, c'est absurde. On va rembourser qui? Et quand on se pose la question de qui rembourser, d'ailleurs, on découvre que c'est scandaleux. L'argent, il nous parlait des smicards tout à l'heure, Marc, là, l'argent des smicards français va être viré directement sur le compte des millionnaires, par exemple, qui sont archi-corrompus, qui contrôlent Haïti ou qui contrôlent Madagascar. Donc on va prendre de l'argent des smicards pour les virer chez des millionnaires qui contrôlent ces pays du tiers-monde. Non, mais c'est absurde, c'est complètement absurde.
Alors, selon vous, mon cher Guillaume Bigot, les Européens ne doivent pas assumer une responsabilité particulière dans l'esclavage et dans la colonisation?
Non, ça c'est encore des idées rances, des américanouillards, c'est complètement grotesque. Mmh. Il faut rappeler que l'Occident, un, n'a pas le monopole de l'esclavage. On le sait, il y a eu la traite islamique, il y a eu la traite interne à l'Afrique. À Athènes, il y avait déjà des esclaves, ça n'avait aucun rapport avec le monde occidental contemporain. Deuxièmement, l'Occident n'a pas non plus le monopole de l'impérialisme. Je rappelle que les Arabes n'avaient rien à faire au Maghreb. C'est un empire arabe qui s'est installé là-bas. Les Perses, l'Empire ottoman, etc. Le paradoxe, en fait, si on cherche quelque chose qui soit propre à l'Occident, ah ben on peut le trouver, en fait. C'est que l'Occident est le seul empire qui se soit décolonisé alors même qu'il avait toujours le pouvoir. Et l'Occident, oui, il y a une caractéristique de l'Occident, c'est d'avoir aboli l'esclavage et même d'ailleurs proclamé l'égalité des hommes. Ça, c'est une caractéristique occidentale, j'en vois pas d'autre.
L'Occident blanc, je mets blanc entre guillemets, oui. Est-ce qu'il ne devrait pas se sentir coupable?
Non, parce qu'il y a vraiment un micmac qui explique très bien, un black micmac, c'est-à-dire comme le film Tocqueville dans La démocratie en Amérique, c'est qu'il y a une confusion mentale qui est opérée entre les questions du racisme à l'égard notamment des Noirs et l'esclavage. Pourquoi? Tocqueville le dit, quand on affranchissait un esclave à Athènes, il avait généralement la même couleur que ses maîtres. Et donc plusieurs générations après, on ne voyait pas la différence. Tandis que dans le Nouveau Monde en Amérique, Tocqueville disait, attention, il y aura abolition de l'esclavage, mais comme les Anglo-Saxons sont racistes, ils ne sont pas mélangés avec leurs esclaves, donc il y a toujours des gens qui sont séparés et donc ils vont porter eux-mêmes les stigmates de cette histoire et en plus les autres vont les regarder comme des anciens esclaves. C'est pour ça qu'il y a ce mélange propre à l'esclavage. Quant à la colonisation, mais c'est absurde, enfin je vous rappelle que la France, la Gaule, était une colonie romaine. La colonisation, c'est pas seulement un empire, c'est un empire qui résulte d'un décalage historique. C'est les visiteurs à l'envers. Quand quelqu'un habite dans le futur et qu'il arrive dans une civilisation du passé, il y a automatiquement un phénomène de colonisation, c'est vieux comme le monde. Donc tout ça est grotesque et ça repose complètement sur l'inculture et la bêtise crasse et encore une fois, cette américanisation insupportable.
C'était la colère de Guillaume Bigot ce soir. Merci à Jean-Sébastien Ferjot d'être venu nous voir. On aime bien quand vous venez nous voir. Merci Gabriel. Merci Marc. Et demain, Charlotte Dornelas revient. Ça nous fera plaisir, même si on vous aime tous, bien sûr. Excellente suite de programme. Tout de suite l'heure des Pro 2 et bon 1er mai à la France.